Bienvenue sur Gameblog.fr, votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast 59, quelle joie, quel plaisir de vous retrouver fidèle, comme chaque semaine, au podcast de la rédaction, toujours sur cette table à repasser tellement sémillante, j'aime beaucoup. Est-ce que tout le monde va bien? Attention, un podcast extraordinaire puisque c'est le retour de toute la fine équipe, hein. Certains étaient partis en vacances, d'autres étaient loin, et puis on a un invité aussi, en la personne d'Elwood. Bonjour Elwood.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous, bande de PD?
Oh merde, ambiance on a anxiogène. Bon, ça va bien les gens? Julo?
Ça va très bien, merci.
En pleine forme, Julo qui essaie d'arrêter de fumer, superbe. Rahan?
Oui, pas, très bien, très bien.
Tu arrives, ouais, c'est ce qu'on va le dire très vite. Caf aussi, donner un micro à Caf. Alors tu reviens des États-Unis avec quelques maladies, ça fait plaisir.
Ouais, des trucs sympas, mais ça va rien de grave.
Très bien, très bien, très bien. Donc le son sera au top?
Ouais.
Ou pas? On verra.
Je te dirai ça tout à l'heure.
Et Angel, comment vas-tu Angel?
Ça va, quoi.
Le seul ici qui peut se targuer d'avoir une équipe qui est championne de quelque chose.
Exactement. Enfin, 31 fois même championne.
Non, fais pas trop. Non, pour une fois que je te donne une perche.
Si ça parle football, j'éteins ce podcast, ok.
Ok, vive Marseille. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une question ô combien intéressante et qui se trouve au cœur de l'actualité du moment. À savoir, la liberté dans le jeu vidéo est-elle une réalité ou une simple illusion? Le suspense est total, mais grâce aux spécialistes du jeu vidéo qui sont autour de cette table à repasser, nous allons pouvoir vous apporter une réponse, en tout cas notre réponse. Et pour cela, j'aimerais qu'on commence par savoir déjà, est-ce que c'est franchement le seul média, le jeu vidéo, qui offre à ce point-là de la liberté ou même de la liberté tout court?
Le sentiment de liberté quand on...
Exactement.
À mon avis, oui. Si on parle de médias, ouais. Il y a d'autres choses qui te le donnent, d'autres types de jeux qui te le donnent, comme le jeu de rôle. Il y a, je sais pas, les livres dont vous êtes le héros où tu peux à peu près choisir ce que tu veux faire comme histoire.
Mais... La drogue.
Mais c'est pas vraiment un média, ça, tu
c'est
vois.
C'est pas vraiment un média.
Comment t'expliquer?
Parce que tu disais, oui, ouais, il y a d'autres choses à part les médias.
Machin, enfin, et puis en plus, finalement, la drogue, c'est complètement illusoire comme réalité. Et puis finalement, c'est plutôt un enfermement qu'autre chose.
C'est pas ce que tu veux dire.
Je crois qu'on va arrêter tout de suite là, parce qu'on est dans une direction au secours.
Bon, allez, resitue un petit peu les choses. Donc, on a parlé de seul média. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de parler du mot jeu que tu disais. Genre, il y a d'autres jeux. Effectivement, plutôt, le jeu est quelque chose dans lequel il y a certaines règles, parfois, mais aussi où les gens aiment transgresser ces règles. Et c'est en...
Ou les inventer, les changer, les inventer, effectivement, etc. Les exploiter. C'est la même chose dans le jeu vidéo d'ailleurs.
Et la force de pouvoir transgresser certaines règles ou détourner certaines règles est justement
une des grosses
de
sources, ouais, du sentiment de liberté, parce que c'est vraiment c'est le sentiment lui-même qu'on a d'être libre dans un environnement qui est peut-être ce qui est si particulier dans le jeu vidéo ou dans certains jeux en tous les cas, parce que c'est pas le cas de tous non plus.
Sentiment effectivement qu'on ne peut absolument pas retrouver dans d'autres médias comme le cinéma, comme la littérature, comme la peinture, comme la télévision, ce genre de choses, qui, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais qui ont une offre qui est point A, point B, c'est fini, on aime, on n'aime pas, mais enfin c'est comme ça, c'est figé par l'artiste, il l'a choisi, ce qui est parfois justement une plus grande force par rapport aux jeux vidéo, on va revenir tout à l'heure avec certaines
pour le récit, ouais.
Au moins on a une œuvre finie, qui a été pensée de A à Z, certains jeux qui peuvent être extraordinaires, s'ils sont quelque part mal joués, où on n'arrive pas à y aller, bon, bah, du coup, ça bride la liberté, parce que trop de liberté peut-elle tuer la liberté? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Et là, je vois les yeux écartillés de Julo, du coup, je me tourne vers toi.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je sais pas, ton avis sur la question.
Eh bien, putain, la vache. Quelle question,
Monsieur Hubert, vous serez noté sur coefficient 20 sur cette question.
Non, je dois avouer que j'ai préparé ce podcast pendant des heures, mais que j'ai tout oublié. Non, sans blaguer, je sais pas, moi, on s'enferme avant de vouloir se sentir libre dans les jeux vidéo. C'est intéressant quand même comme démarche.
Précise ta pensée. je comprends pas. Bon, alors, là, dans ce genre de cas, il faut toujours s'en remettre à un avis extérieur hein, pour avoir un petit peu de recul sur la situation. Et donc, franchement, bah, notre philosophe à nous, hein, Elwood.
Que dire? Moi, je dirais que la littérature, par exemple, offre beaucoup d'imaginaire, là où le jeu vidéo en offre peu, puisque tout ce qu'on nous vend dans le jeu vidéo est pré-mâché, visuellement. Donc, au niveau du son et de l'image, en tout cas, on a quelque chose de figé. Mm-hmm. La littérature offre une ouverture vers l'imagination.
En même temps, si on t'écrit jaune, c'est jaune. Si on t'écrit rouge, c'est rouge. Si l'écrivain choisit certains mots, c'est pour suggérer des idées.
Il y a des nuances de rouge.
Il est daltonien.
Je suis bien d'accord.
Spécialiste du rouge, Elwood.
Exactement. On ne dira pas lequel. Non, mais l'imagination d'un bouquin, c'est imaginer des personnages.
Tu laisses une marge de manœuvre, en fait, par rapport à ce qu'il te raconte ou ce qu'il veut créer dans ta tête comme image, alors que le jeu vidéo te les donne visuellement. C'est ça que tu veux dire, en fait.
Oui, le fil rouge de la littérature est figé, celui du jeu vidéo aussi, mais le livre permet de se créer un univers autour de ce qu'on vous a donné.
Bah, très clairement.
Bah, ouais, je suis d'accord avec Serge.
Ah non, Serge, c'est Elwood, hein, parce que comme on voit pas ce qu'il voit.
Ce que veut dire Elwood, c'est que la même phrase peut faire imaginer à 15 lecteurs différents une situation dans les faits identiques, mais qu'une forêt ne sera pas la même forêt pour tout le monde, et on imagine, et ça fait marcher la boîte à rêves, la boîte à imagination.
Je reprends un exemple tout bête, c'est peut-être bête, mais un Harry Potter, par exemple, on les a tous lus ou pas tous lus, mais on a vu les films dans la foulée, et ça reproduit assez bien l'imaginaire qu'on a pu se faire d'un univers dont on a
mais là, ça tend à prouver justement que tout le monde imagine plus ou moins la même chose.
Justement, c'est là-dessus que je voulais revenir. Moi, ce que je trouve intéressant, justement, et la littérature est quelque part beaucoup plus fantasmée, enfin, fait beaucoup plus marcher l'imaginaire que par exemple le cinéma, qui est vraiment l'infini. Il y a la musique, il y a l'image, il y a le texte. Et justement, souvent, sur des films adaptés de livres, il y a souvent une déception. Et parfois, on se rend compte que finalement, le film n'est pas mauvais, mais c'est la vision du réalisateur qui, lui, a imaginé ça, ce qui n'était pas forcément ce que nous, on avait vu. Peut-être pas le même rythme, peut-être pas la même... C'était peut-être plus ou moins fantasmé. Justement, ça, c'est intéressant. Mais est-ce que le jeu vidéo, finalement, certes, bloque les choses visuellement, mais laisse
il ouvre autre chose, c'est pas la même grammaire, hein. C'est pas les mêmes ce qui est l'équivalent des mots dans un bouquin qui te suggère l'image dans le jeu vidéo c'est pas l'image qui t'est suggérée telle quelle, la grammaire du jeu vidéo elle se situe ailleurs dans tous les cas pour les jeux qui peuvent prétendre à offrir un sentiment de liberté, type un GTA, un Fallout, je sais pas, on en citera certainement d'autres, mais ce type de jeu là la grammaire de ces jeux là c'est l'ensemble des règles ludiques de l'univers dans lequel tu évolues. Et de ce point de vue-là, à mon avis, l'imaginaire du joueur a autant à jouer par rapport à ce qu'il fait dans le jeu, pas forcément par rapport à ce qu'il voit.
Et c'est marrant d'ailleurs, ça me fait penser à un truc sur la génération 16 bits où on se disait toujours finalement, avec les progrès techniques en fait, sur les RPG notamment, dans la génération 16 bits, notre... imagination était beaucoup plus mise à contribution, enfin elle devait être mise à contribution. Finalement on voyait des petits personnages SD à l'écran et puis on parlait de grandes quêtes, etc. Alors notamment les Final Fantasy, on s'imaginait
ou les personnages quand ils pleuraient ou quand ils étaient heureux ils sautillaient sur eux-mêmes, et là tout le monde pouvait imaginer effectivement,
et quelque part avec donc les nouvelles générations de consoles, finalement on a beaucoup moins fait travailler l'imagination et c'était un aspect intéressant,
mais là effectivement attention parce que c'est encore quelque part même un autre débat sur l'imaginaire ou ce genre de choses. Effectivement, est-ce qu'avec la progression technique des consoles actuelles, on parlait il y a quelques instants de la génération 16 bits, finalement on était beaucoup plus cantonné à une quête point A, point B, il y avait très peu de possibilités, il y avait des warp zones, il y avait des passages secrets,
il y avait quand même déjà une quête.
Pas la liberté,
il y avait quand même déjà une recherche de la liberté et on était.
Une recherche,
ouais.
Mais est-ce que c'était abouti?
Écoute, nous, par exemple, quand on jouait justement à ces fameux RPG de l'époque 16 bits, par exemple, on était hallucinés de voir qu'en fait, on n'était pas obligé de suivre la ligne directrice, qu'on pouvait aller sur un autre point de la carte, on pouvait aller voir un autre truc, et puis il y avait une autre quête qui se déclenchait, annexe ou quoi, et puis être libre de faire ce que tu voulais dans un scénario qui devait quand même avancer.
Là, c'est intéressant, effectivement, parce qu'en fait, finalement.
C'est déjà un sentiment de liberté.
Liberté, mais est-ce que c'est vraiment la liberté qu'on connaît aujourd'hui, ou en fait, là, c'était des choses qui étaient scriptées, c'est-à-dire qu'il y avait, on va dire, 10 possibilités, mais pas 11. Alors qu'aujourd'hui, dans les jeux, on le voit avec l'émergence de GTA, par exemple.
Non, mais GTA aussi a ses propres règles.
C'est l'émergence vraiment des jeux bac à sable, où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues par les développeurs. Ils ont prévu des scripts, ils ont prévu une intelligence artificielle donnée à des personnages. Mais après, quitte à voler n'importe quelle voiture, à aller faire ce qu'on veut dans la ville. Et alors là, je parle de GTA, mais il y a beaucoup d'autres jeux, on va en parler tout à l'heure dans le podcast, qui offrent du coup aujourd'hui une illusion de liberté en donnant beaucoup de clés au joueur de faire ce qu'il veut.
En fait, ce qui caractérise justement l'aspect libre, enfin la liberté qu'offre un jeu pour moi, c'est de base, c'est l'interactivité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te donne le choix de faire soit A, soit B, soit A, soit B, soit C, soit etc., etc., déjà, c'est une forme de liberté. Maintenant, que ça soit dans un GTA qui casse les frontières à l'intérieur de son univers de jeu, ou dans un RPG qui étend les siennes en faisant un univers plus grand, par exemple, ou un MMO, ou ce genre de choses-là, c'est toujours soumis à des règles, c'est toujours soumis à des limites qui font que justement on a toujours des fantasmes de jeux plus grands, plus libres, on peut faire toujours plus de trucs, etc. Et c'est un fantasme super commun que d'imaginer un monde entièrement bien simulé avec des gens qui réagissent, avec tout
mais
ça.
Mais est-ce que la vraie liberté dans le jeu vidéo, c'est justement pas juste d'avoir des quêtes infinies mais finalement toutes pensées, plutôt qu'être vraiment dans un univers posé et d'avancer à son rythme, de créer des interactions avec d'autres personnages qui ont été prévus dans l'ensemble? Oui, on pourra interagir avec ce genre de personnages, mais de quelle manière, le développeur ne le sait pas, sous quel angle, à quel moment de la journée, de la nuit, du, enfin, ce genre de choses. Et finalement, avec l'arrivée de jeux, par exemple, comme je pense à Shenmue, avec le côté très réaliste, le cycle jour-nuit, la pluie, la neige, la possibilité d'aller ouvrir n'importe quel petit tiroir dans une maison.
D'ouvrir la boîte d'allumettes qui est dans le tiroir.
Ouais,
de craquer l'allumette.
Enfin,
ça ne sert à rien, c'est ça qui est génial.
Voilà. Bah, c'est ça qu'en fait, c'est là où je voulais en venir, oui, c'est que la liberté, dans les jeux avant, il y a plein de possibilités, mais tout servait à quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux dans lesquels on nous donne des possibilités qui ne servent à rien d'autre que simuler une vie réelle.
C'est-à-dire que le problème, c'est que le jour où les jeux vidéo, où on pourra faire autant de choses que dans la vie, ça ressemblera vraiment à la vie, je pense qu'on va vraiment se faire chier.
Enfin, c'est possible.
Non, mais c'est vrai.
Enfin, ça dépend, non, parce que enfin, c'est toujours la direction dans laquelle on tend, mais sauf que dans le jeu, tu parce que le vrai sentiment de liberté, c'est il peut pas exister s'il y a pas de règles à transgresser ou à exploiter. À mon avis, en tous les cas.
Sinon, c'est plus de la liberté. C'est
du néant.
Oui, c'est
du néant. Il y a rien à faire. D'ailleurs, c'est un vrai problème parce que si tu imagines effectivement un monde de jeu où tu peux faire entièrement ce que tu veux, mais qu'il n'y a pas de récit, qu'il n'y a pas de but dans le jeu, il n'y a plus de jeu.
Justement, là, je vais choquer un petit peu certains de nos internautes. Mais par exemple, moi, ce que tu dis là, le néant, ça me fait penser un peu à Shadow of the Colossus, en tout cas dans les traversées des grandes plaines, où effectivement, il n'y avait strictement rien à faire. Alors, c'était magnifique, on a la liberté d'aller où on veut, mais il y avait tellement rien à faire que finalement moi je me suis senti un petit peu justement dans ce néant, et que du coup ma liberté sortie des 2-3 premières heures où j'étais ébahi par cette espèce de grand hub, de cette grande surface où je pouvais aller où je voulais, je pouvais aller où je voulais, mais je pouvais tellement rien faire que finalement au bout d'un moment je faisais plus que point A, point B, je sors de mon temple, je vais aller affronter le colosse.
C'est marrant, mais moi c'est pour les
Julot.
Sur le même jeu, donc sur ces passages de à cheval dans les plaines où tu n'avais absolument rien à faire de particulier à part chasser des petits animaux, je crois.
Oui, enfin, c'est bref, ça, pour agrandir sa barre de prise.
Voilà, ça servait quasiment à rien. Quoi. Ouais. Enfin, il y avait quasiment en tout cas rien à faire. Et ben moi, j'ai trouvé ça extraordinaire justement.
Attention, je dis pas que c'est pas bien. Ça,
non,
c'est,
mais je dis
pas que ça m'a pas plu.
Tu dis qu'au bout
mais
d'un
finalement,
moment,
je me suis senti presque bridé. Enfin, et pourtant moi qui suis quelqu'un qui aime beaucoup contempler les décors, machin, etc.
Oui, mais t'aimes bien être surpris aussi. Et moi, en fait, j'ai été surpris. Et dans Shadow of the Colossus, j'ai commencé à faire ces balades donc à cheval, et puis je me suis dit bon bah il va y avoir un truc parce que ça doit être long, etc. Et puis je disais non, il y a rien. Je suis là, mais c'est incroyable quand même. Et puis et finalement, tu te prends au jeu et tu te dis tiens, c'est joli par là, je vais y aller. Et puis, t'as donc ce sentiment illusoire, c'est toujours illusoire, de liberté, de pouvoir faire ce que tu veux. Et voilà, et ça m'a fait triper. C'est pour moi une des grandes qualités du jeu, se situe là justement. Et je sais que ça divise parce qu'il y a des gens que ça a fait chier. Ouais. Voilà, ce que je respecte. Mais...
Bah, Elwood doit peut-être nous mettre d'accord ou nous emmener vers une autre piste.
Non, moi, le corollaire pour moi de la liberté dans l'exemple que vous donnez, c'est l'exploration. C'est la possibilité d'aller voir des choses qui sont pas données du premier abord par le développeur de manière bête et méchante comme un objectif de mission. C'est effectivement l'exploration libre et sans aucune limite. Les limites, elles existent, on les connaît tous. Imaginer qu'un jeu avec une liberté totale puisse exister, c'est une chimère. Il y aura toujours des jalons, il y aura toujours un moment où on va buter contre un mur, ou alors on va aller à l'infini sur une mer où il se passe rien comme dans GTA. Je l'ai pas fait très longtemps, mais ça doit être ce qui se passe. Et cette notion d'exploration prend beaucoup de temps, et mine de rien, on n'a pas non plus toute la vie pour explorer et exprimer cette liberté qu'on nous offre en allant toujours tout droit vers l'horizon. Ça aussi, c'est une chimère. On n'a pas que ça à foutre, et il y a des choses dans la vraie vie
à faire.
Non, mais
on sait que c'est une chimère. Ça fait partie de la règle au départ, on a envie de se laisser berner, en fait. On a envie que le
c'est
jeu.
Vraiment une chimère.
C'est comme le suspension of belief dans les films.
C'est ça.
Attendez, est-ce que c'est vraiment une chimère? Moi, je suis pas persuadé. Aujourd'hui, oui. On doit développer, les créateurs font des univers 3D avec des textures, etc. Mais on le voit de plus en plus dans certains jeux où il y a des textures, je ne suis pas très technicien, mais des trucs procédurales.
Procédurales, oui.
Voilà, où finalement ça crée des univers gigantesques avec juste une formule mathématique.
Mais en général, ils ne sont pas très riches. C'est ça
non,
le problème.
C'est, voilà, pour l'instant. Mais est-ce que justement dans 10 ans, rappelez-vous les jeux il y a 10 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on n'aura pas justement un monde.
En fait, ce dont tu parles là,
c'est généralement ce dont tu parles.
Exactement, hein. Avec de l'IA.
Mais ça existe déjà. Tu prends. Il y a déjà eu des jeux. Qui proposait des univers qui étaient aléatoire en fait. Mm-hmm. Ce qui rejoint en fait le concept de procédure dans ton truc. Et qui permettait du coup, par exemple, prenons un Daggerfall à l'époque qui est un des premiers Elder Scrolls qui ont donné donc plus tard Oblivion et compagnie pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Mais Daggerfall avait des donjons qui étaient aléatoires par exemple. Donc quand tu allais faire explorer un donjon, ce que tu y voyais n'était jamais la même chose, quoi. Donc il y a d'autres jeux qui ont essayé d'exploiter le hasard comme ça, mm-hmm, pour générer des univers. Et un autre truc qui rejoint ça, c'est l'IA. À la base, à mon avis, là où il y aura vraiment une grande progression en termes de sentiment de liberté, peut-être similaire à ce qu'on a pu voir avec la sortie de GTA 3, ça sera quand on aura des jeux qui seront capables de te fournir des personnages crédibles sans pour autant que les dialogues ou les, ouais, interactions verbales que tu vas avoir avec ces, ouais, personnages ne soient écrites auparavant. Mm-hmm. Et ça, c'est quand même pas gagné, quoi.
Mais ouais, ça, c'est complètement super complexe de créer de la littérature, de l'échange verbal, justement, ouais, avec d'autres personnages.
Et c'est aussi là que GTA...
On peut imaginer, vous pensez que c'est possible, ça, un jour ?
C'est possible. Il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a des bots qui existent, qui essayent de tenir des conversations, mais on en voit très rapidement les limites. On se rend très vite compte que c'est des bots. On n'a pas l'impression d'être face à quelqu'un qui existe, quoi. Enfin, donc il y a des recherches qui sont menées là-dessus, mais on est très 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 loin de pouvoir vraiment faire croire à un humain qui parle à un autre, ouais, humain pendant plus peut-être de 20 minutes ou quelque chose comme ça. Donc dans un jeu a fortiori où tu sais qu'en plus c'est présenté comme un personnage comme ça, tu le sauras. Par contre, c'est important de parler de cet aspect verbal et des personnages dans les univers de jeu, mmh, parce que c'est aussi ce qui donne à GTA ce sentiment de liberté, alors qu'en fait finalement il, ouais, n'y a pas tant de trucs que ça à faire dans un GTA, faut quand même être objectif. C'est que t'as pas besoin de parler au personnage et tu vas pas parler au personnage, il n'y a pas d'interaction verbale en dehors des cutscenes qui véhicule l'histoire. Il y a pas de, tu vas pas parler aux gens dans la rue dans GTA, c'est pas possible. Et tu t'en fous de pas pouvoir faire ça parce que c'est vachement plus drôle ce qu'on te propose comme interaction, comme moyen de communiquer avec ces gens-là, c'est de leur tirer dessus, de leur rentrer dedans, de t'amuser avec, de
ça
les faire, de, les,
jeu,
de leur foutre, la, de leur foutre la trouille, etc. De les voir réagir à ce que tu fais dans l'environnement. C'est comme ça que tu communiques avec ces faux personnages.
Et puis
personnages.
Finalement, ils communiquent aussi. Alors certes, avec,
oui, parce qu'ils réagissent, ils hurlent, ils se baladent,
oui,
ils parlent entre
phrases,
eux,
ils parlent à toi directement. Alors certes, bon voilà, c'est limité. Ils ont enregistré un nombre donné de phrases. Enfin bon, c'est un début aussi.
Mais enfin, en tous les cas, moi, j'ai jamais vraiment eu envie de parler à des personnages dans GTA, quoi. Je veux dire, ça, oui, m'est jamais venu, oui, à l'idée d'avoir un dialogue avec le premier mec qui était,
non,
là, qui passait dans la rue. C'est parce que les règles sont différentes et qu'on te pointe le regard dans une certaine direction et on efface les limites de cette direction-là pour pas que tu les vois, quoi.
Elwood.
Le côté chimère, c'est aussi le côté si la liberté était totale, dès qu'on passerait devant n'importe quel immeuble, devant n'importe quelle fenêtre, on pénétrerait, ouais, à l'intérieur d'un, mmh, univers, d'un appartement, d'une pièce. Il y a des choses qu'on peut pas faire parce que techniquement c'est impossible de les faire, ou alors le boulot pour le faire est trop important. Mmh. Donc on est quand même dans des jalons qui sont bien, ouais, définis. On a le droit d'entrer là où on veut bien qu'on entre. Mais nous, ce qu'on voudrait faire, si on voulait parler de liberté totale, ce serait pouvoir explorer un univers cohérent de A à Z, comme dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, on voit une fenêtre, si on veut rentrer, on rentre.
Bien sûr.
On pète la fenêtre, on, mmh, la pète pas, mais on rentre là. C'est une texture qui est posée. Et je me rappelle par exemple de Duke Nukem 3D, dans lequel il y avait, ouais, des passages secrets et des pièces fermées qui étaient derrière des fenêtres qui ressemblaient à n'importe quelle fenêtre, mais où on pouvait passer à travers. On ne le savait pas, on le faisait au hasard, et c'était une découverte à l'époque quand on découvrait ces jeux en 3D.
C'était jouissif.
C'était, ouais, vraiment, ouais, jouissif. Avec... Dans Daytona USA, il y avait des tunnels cul-de-sac dans lesquels il y avait un petit message laissé par les développeurs au fond. On avait vraiment l'impression de découvrir une pépite dans le jeu. Ouais. Et je pense qu'on commence à être, pas blasé, mais à être habitué à ce genre de petits easter eggs qui existent dans les jeux vidéo.
Mais et d'un autre côté, il y en a tellement de plus en plus et de plus en plus intégrés au jeu. Par exemple, une fois de plus, on le cite très souvent, mais enfin, dans GTA, il y a quand même rarement eu des jeux dans lesquels on pouvait pénétrer à ce point-là et de manière complètement fluide dans des maisons, dans des bâtiments, dans des immeubles, et puis avec
si, mais
plusieurs
pas avec
étages...
C'est ça aussi la force de GTA, c'est qu'il n'a pas cassé des frontières qui étaient à l'extérieur du monde du jeu, enfin, mmh, dans la circonférence, si je puis dire, du monde du jeu, mais à l'intérieur du monde du jeu. Il a rajouté du détail et des degrés de liberté à l'intérieur. C'est-à-dire qu'habituellement, dans un jeu vidéo, on te permet de faire un certain nombre d'actions. Par exemple, à tel moment, tu vas pouvoir prendre tel objet, mais pas tel autre. Mmh. Tu vas actionner tel levier parce qu'il va ouvrir la porte, mais le levier qui est juste à côté, il est là juste pour décorer, tu vois. Mmh. Donc là, t'as un problème, justement, de degré de liberté que t'as moins dans GTA parce que tu peux piquer toutes les voitures, tu peux bousculer tous les passants, tu peux aller dans toutes les rues, et donc c'est à l'intérieur de l'univers de jeu qu'ils ont aboli ces frontières-là, et c'est, mmh, que ça donne un tel sentiment de liberté, alors qu'en réalité, on ne fera jamais que piquer des voitures, bousculer des gens, machin.
Et puis finalement, est-ce que le jeu vidéo aussi, moi je parle vraiment de liberté conditionnelle dans ce genre de cas, parce que on a de plus en plus de possibilités, on est de plus en plus libre, certes, mais il y a parfois des aberrations incroyables qui brident le sentiment justement de liberté. C'est-à-dire qu'on est un super-héros, on fait plein de trucs, on peut interagir avec tout.
Et on peut pas sauter par-dessus le putain de caillou.
Exactement, voilà, une petite margelle de 15 cm pas plus haut que le genou, mais ah bah non, on bute dessus. Et ça, franchement, c'est, ça atténue tout de suite la liberté, quoi, le sentiment.
Un exemple dans GTA 4, je me suis amusé à un moment où on se fait cramer sa première planque pour aller sur la deuxième île, donc tout prend feu, je me dis tiens, je vais appeler les pompiers. Donc je suis à côté du bâtiment en feu, j'appelle les pompiers arrivent, ils descendent son camion et ouais, il se passe rien ici, je rentre à la caserne. Et ben ça, c'est le genre de petit détail que les développeurs n'ont pas prévu, ils peuvent pas tout prévoir, mais qui d'un seul coup te ramène sur Terre. C'est et ça. Te fait prendre conscience que t'es dans un univers jalonné et que tu n'en sortiras pas.
C'est de ça dont parlait Julot tout à l'heure brièvement, il a évoqué le terme, c'est le suspension of disbelief qui est valable pour le...
Traduction, si vous simultanez,
c'est
vous
en fait la propension qu'aura un spectateur, que ce soit pour un film ou pour un jeu vidéo, à se mettre volontairement dans une position de croyant. Okay, il va dire, je sais que c'est un film, il sait que c'est un jeu, mais il va dire, ok, je veux bien y croire, je vais.
J'essaie d'y croire, je me mets dedans.
Voilà. Et il y a certaines choses qui cassent ce pas que fait l'utilisateur vers l'œuvre, le média, etc. Typiquement, donc, ce qu'a fait Elwood, là, ça lui a cassé son suspension of disbelief. Ouais. Quand tu, je sais pas, pour prendre un exemple de cinéma.
Enfin, d'ailleurs, il a quand même fait un leap of faith, donc ça allait. Quoi.
quand tu pourrais prendre un exemple de cinéma, par exemple. le dernier film produit par Abrams là,
Cloverfield.
Voilà, Cloverfield. Au départ, tu dis ok, tu y crois à fond, c'est super bien foutu.
Je veux y croire.
Et au bout d'un moment, quand le mec il a ramassé sa caméra 15 fois, tu fais ok, bon, ça c'est pas possible.
Ah bah si, ma suspension of disbelief elle était à fond dans ce film.
Bah pas moi.
Moi elle a lâché au bout d'un moment aussi.
Ah pas moi. Moi j'ai
au bout d'un moment, tu te mets quand même dans la peau du mec, tu te dis mais
là je veux plus y croire.
Parce que
au bout d'un moment, tu sauves ta peau quand même.
Ouais, mais perso, je pense que je le ferais. Il a commencé, il va jusqu'au bout, il y croit, et quelque part, il se raccroche. Moi, je pense qu'en plus.
Même quand il a un strop de 30 mètres de haut qui essaye de le.
Ouais, mais c'est quelque chose qui lui met une distance par rapport au monstre et qui peut-être
le rassure.
Ouais, et puis enfin, virtualise son expérience.
Tout ça pour dire qu'on est désireux jusqu'à un certain point de croire en quelque chose qui a des limites, que ça soit un film ou un jeu, et que typiquement, il y a des écueils qu'on est de moins en moins amené à pardonner à mesure que le jeu avance, que la réalisation avance.
À mesure que la réalisation est de plus en plus réaliste, quoi. Parce que plus c'est beau, plus c'est bien fait, plus tu vois les défauts. Et plus
en fait, c'est tout l'inverse de la religion. Avant, moins les sociétés étaient évoluées, plus on croyait en quelque chose, on avait une suspension de disbelief super élevée, et plus la société avance, et moins on croit dans des choses irréelles.
Mais parce qu'on a aussi vachement plus. Hein. Par exemple, les moteurs physiques dans les jeux vidéo, c'est relativement récent à l'échelle du jeu vidéo d'avoir des vrais moteurs physiques où les objets réagissent de manière crédible, etc. Avant, on ne se posait pas vraiment la question.
Attention, moi je dis plus que crédible, ça veut dire que de plus en plus, les développeurs travaillent sur des choses, finalement, ils mettent des mécanismes en route, mais qui après leur échappent, entre guillemets, c'est-à-dire l'eau qui va couler sans que ce soit codé, mais juste parce qu'il y a un moteur physique.
Mais si, elle est codée.
Non, mais d'accord, mais par exemple, si tu poses un meuble sur le côté, l'eau va prendre.
C'est-à-dire qu'au lieu de définir les étapes de ce qui va se passer, ils définissent les règles par lesquelles ça va se passer.
Mais comme dans la nature, comme dans la vraie vie, entre guillemets, et du coup, ce qui permet de créer des choses qui n'ont pas été vraiment prévues.
De permettre des situations qui.
Voilà. Oui. C'est ça qui est génial quand tu es joueur et que tu testes un truc. Et que ça, le résultat te surprend en fait. Tu vois, tu testes un truc en disant tiens, ça va peut-être marcher, je sais pas, etc. Et puis ça marche, et là c'est génial. On a connu ça à mort, excuse-moi, Elwood, dans Deus Ex, quand on y jouait tous en même temps. Moi, c'est la première fois que j'ai joué à un jeu PC, c'était pour jouer à ça, pour cette raison. Parce que je voyais qu'il y avait quelque chose au niveau de la liberté qui n'existait pas ailleurs. Quoi.
C'est vrai que Deus Ex, Elwood, ça a été une révélation pour beaucoup d'entre nous.
Pour la liberté.
Ton ratio de disbelief était à combien là, sur Deus Ex?
Je sais pas, c'est vraiment un jeu qui m'a porté. Je me suis pas posé la question à aucun moment de savoir si j'étais.
C'est justement là où c'est génial.
Franchement, non, moi je trouve que c'est dangereux parce que ne pas penser à son disbelief est quand même vachement critiquable. Personnellement, je trouve.
C'est n'importe quoi.
Maintenant, dès que je jouerais, je serais. Putain, je suis en 52% de disbelief là. Merde. Et je t'interromps.
Non, l'autre exemple, c'était Half-Life 2 où on s'est tous amusés avec le moteur physique à faire des trucs bizarres avec l'eau, les meubles, ou dans Far Cry à essayer de faire rouler des bidons ou alors faire des. des échafauds de bidons et les faire tomber avec une roquette. Enfin, c'est des trucs débiles, effectivement. Mmh. Mais on est dans un univers régi par des règles. Ouais. On les comprend et on peut jouer avec.
Et on veut les tester. C'est un sentiment de liberté. On veut les tester et on veut voir le mur qu'il y a au bout.
Quelque part, est-ce que c'est... Ce que j'ai envie de demander, c'est est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est pas vraiment de la liberté ? Parce que la vie réelle, nos vies, elles sont régies par ça. Hein. Des règles, des choses... Le béton, c'est dur. Quand tu t'écrases par terre, ça fait mal. Boire, c'est bon pour la santé. Enfin, il y a des règles.
Ça dépend ce que tu bois.
Certes. Non, mais boire de l'eau, bien sûr. Enfin, voilà, il y a aussi dans la vraie vie, il y a aussi des règles. Alors, bien évidemment, démultiplier, ce genre de choses. Mais enfin, tu dors pas pendant 40 jours, tu meurs. Enfin, bon.
D'ailleurs, dans les jeux vidéo, il ne chie jamais. Mais bon.
C'est vrai, rarement.
Non, GTA 4.
C'est vrai, ça.
Mais, ah bah tiens, d'ailleurs,
mais dans 24 heures chrono non plus. Hein. Ça dure un jour,
ça ne dure que 24 heures, tu peux te retenir. Hein.
Et ça a été justement un truc dans Shenmue. Parce que non, dans Shenmue, tu peux ouvrir toutes les portes, aller où tu veux, etc.
Tu peux aller aux chiottes.
Et bien justement, tu peux rentrer dans les chiottes, ouais. Mais tu peux pas pisser.
Attends, pas.
Voilà, non, il se passe rien, tu regardes les gogs et tu dis.
Je crois que dans Duke Nukem, on pouvait pisser.
Mais dans Little Computer sur Commodore 64, c'était quoi LCA, je me rappelle plus du dernier truc. Tu sais, t'avais un petit personnage qui bougeait dans une maison tout seul, qui était préprogrammé, il pouvait aller aux chiottes, il lisait son journal et après il tirait la chasse d'eau, mais il y avait pas de plouf.
Et ça, c'est génial.
Ah bon?
Le fait de changer de fringue aussi.
C'était la classe.
Ils ont pas numérisé le plouf.
Non, c'était trop high tech à l'époque.
Le ploufing n'était pas au top.
Non. Mais les murs invisibles, j'ai piqué le micro à Raon justement pour dire que là il y a un jeu qui est en train de cartonner en termes de lancement, c'est Edge of Conan, qui est soi-disant un MMO, donc un jeu où tu es dans un univers, tu fais des trucs. Et en fait, c'est un super fake parce que tu as des murs invisibles partout. Dans n'importe quel MMO, tu vois la rive, tu es au bord de d'une rivière, tu vois de l'autre côté. Dans celui-là, tu peux pas traverser, tu peux commencer à nager, puis au milieu de la rivière, tu auras un mur invisible. Parce
Est-ce que le, faut et le personnage continue à nager? Parce que moi, c'est un truc qui m'horrifie.
Comme
ça,
un con, ouais.
C'est quand les gens continuent à nager, alors tu peux continuer, visiblement, tu peux continuer, mais non, là, c'est fini.
Non, ça pète pas l'animation, puisque de toute façon, t'es dans une box fermée, finalement. Ouais. C'est une texture de l'autre côté, c'est super bien fait. C'est d'autant plus frustrant que le jeu offre une distance de vue hallucinante. C'est super beau, t'as des paysages de la mort. Mais t'es bloqué en permanence parce qu'il faut passer par un personnage, tu lui parles et lui va te téléporter à tel et tel endroit. Parce que le jeu n'est pas du tout fait pour pouvoir avoir justement cette expérience. Et dans un jeu qui est quand même dans le MMO, t'es censé avoir envie de te balader, etc. Alors là, pour le coup, t'es vraiment obligé de faire point A, point B parce que de toute façon, tu peux pas te balader. Et c'est très vrai au début, le jeu est voulu comme ça jusqu'au level 20 où vraiment c'est un couloir. Hein. C'est hyper frustrant pour les joueurs qui aiment bien la liberté.
Free, c'est hyper frustrant.
Bon, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais c'est pas grave, je suis fatigué.
90 pourtant, je comprends pas.
Et après le level 20, en fait, tu arrives dans une partie avec plus de liberté. Et effectivement, là, mais ça reste hyper limitatif par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Mm-hmm. Ce qui est d'autant plus chiant que le jeu est super beau et que t'aimerais bien pouvoir en profiter.
Messieurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que la plus grande liberté, finalement, du joueur, le moment où il se sent le plus libre, c'est finalement quand il n'y a pas un bug qui se produit et quand parfois le personnage traverse une texture, apparaît de l'autre côté et on voit tout l'univers. Et puis on peut se balader et du coup, des choses qui là, par contre, sont clairement pas prévues. Et on peut faire plein de choses ou écraser, par exemple, dans GTA. Bah, je me rappelle la première séquence. Alors là, ça nous avait un peu frustrés, mais à la fois, ça nous avait fait rire. Puis on essayait de voir. Première partie, avant même d'arriver dans la planque ou chez Roman, on a planté la voiture avec Raon. On n'arrivait pas à en sortir. Donc c'est un bug.
Ah oui, oui.
Et finalement, est-ce que c'est pas à ce moment-là où on se sent le plus libre, à la fois bloqué, mais libre de voir des trucs qu'on ne doit pas voir ou aller dans des pièces où on ne peut pas accéder normalement?
Ouais, enfin, c'est relativement limité. Mais effectivement, oui, on avait bloqué la caisse. On ne pouvait plus ressortir parce qu'on était tombé dans un escalier d'immeuble et on ne pouvait plus faire marche arrière à cause des marches.
C'est pas forcément le meilleur exemple, mais par exemple moi je me rappelle de partie de Tomb Raider où je sais pas, je fais un saut, le personnage se bloque dans une texture, j'arrive pas à le bouger, je sais pas, j'appuie sur tous les boutons et broc, il glisse et je suis tombé derrière le décor et je me suis baladé, j'ai fait tout le niveau de l'autre côté. Alors il y avait rien, hein, y avait du bleu derrière, mais je kiffais quoi, je découvrais complètement et j'avais l'impression d'avoir une autre aventure et là je me sentais complètement libre.
Moi je pense que la notion de liberté tient aussi au libre arbitre et au fait de faire des choses que les développeurs n'ont pas prévu que tu sois capable de faire. Comme par exemple dans
transgresser,
GTA...
Transgresser, toujours.
Transgresser, c'est ça, vraiment. Le fait de pouvoir transgresser t'amène une liberté que tu ne pensais pas avoir. Comme,
comme dans la vraie vie. Hein.
Passer sur une île quand l'île n'est pas ouverte avec les ponts dans Vice City, où tu le fais allumer par les flics, mais t'y es.
Dans le 4 aussi.
Dans le 4 aussi. Ou alors l'exemple dans Vice City de récupérer l'hélico de combat dans la base militaire.
Mais le fait est qu'ils ont prévu le truc, sinon tu passerais pas à 4 étoiles et tu te ferais
mais
pas.
Mais t'as le sentiment qu'ils l'ont pas prévu, t'as le sentiment que tu te dépasses.
En tout cas, il faut pas le faire.
Qu'on t'a imposé.
Pas le faire maintenant,
etc. Fait croire que.
Oui,
bien sûr.
Effectivement.
Mais tu dis, j'ai eu l'idée de mon propre chef, avec les moyens qu'on met à ma disposition, de faire quelque chose que je devrais pas pouvoir faire. Et ça, c'est jouissif, ouais.
Encore, allons encore plus loin en parlant de. Alors, c'est un bug ou pas vraiment un bug, à vous de voir, hein, mais je pense une fois de plus, Shadow of the Colossus. On sait que, par exemple, quand on a fait le jeu plusieurs fois, qu'on a récupéré justement tous les petits animaux, quoi que ce soit, qu'on peut avoir sa barre de vie, enfin de prise, de tenue la plus longue possible, on peut monter tout en haut de l'espèce de, de grande citadelle. Il y a un jardin d'Éden où il n'y a strictement rien à faire, rien à trouver.
Qui rappelle Ico.
Qui rappelle Ico, dans lequel normalement on est
Il a été modélisé pour.
Il a été modélisé, oui, mais. Pour y aller, il faut utiliser des bugs. C'est-à-dire des moments où le personnage se tient, mais il faut sauter. Comme ça, donc ta barre
c'est
de.
C'est évident que les développeurs ont voulu qu'on fasse, sinon ils n'auraient pas casé un jardin.
Oui, mais tu utilises des bugs. Oui, mais tu utilises des bugs pour.
Non, c'est pas vraiment des bugs. Tu exploites des règles physiques qui sont celles du jeu. Les développeurs, en le playtestant, crois-moi qu'ils savent que tu pouvais le faire.
Sinon, ils n'auraient pas collé ce jardin là-haut. Tu vois ce que je veux dire?
Par contre, passer derrière la texture, comme tu l'as expliqué tout à l'heure dans ton raider.
Non, au bout d'un truc. Au tout début, quand il arrive avec son cheval, machin, tu vois les arbres. Alors bon. Mais non, mais par exemple, quand je parle de bugs, c'est parce que dans la vidéo, elle est sur YouTube, hein, vous pourrez la voir. On l'a même peut-être postée dans le blog. Par exemple, il suffit de sauter. Du coup, sa barre de tenue ne baisse jamais.
Oui.
Parce que hop, non, mais il avance.
Alors attends, Grolum, justement, ça, c'est un bug à exploiter parce que. Tu peux arriver à le faire sans aller jusqu'à avoir la barre maximum.
C'est ça, voilà. Ouais.
Mais quand t'as la barre maximum, tu le fais sans exploser des bugs. Quoi. Enfin, c'est, voilà.
T'as pas besoin d'utiliser ce procédé-là pour y arriver. Quoi.
Découvrir des choses cachées, découvrir des trucs qui n'étaient pas permis.
Donc là, c'est l'inverse.
Ça, c'est la force de la liberté.
Au lieu de passer au travers de ce que les développeurs ont prévu, c'est aussi extraordinaire dans un jeu de faire un truc rien dans le jeu ne te dit de le faire ou ne te pousse à le faire. Vraiment, je pense donc par exemple à la scène de The Darkness qui est un shooter où donc en gros tu suis ton histoire, tu tues tes strums,
on va lister maintenant un petit peu les jeux qui pour nous paraissent ceux qui offrent le plus de liberté ou en tout cas qui ont des séquences qu'on fait.
Donc, là, il y a plusieurs liberté, c'est un truc très précis.
Donc
The Darkness, je vais peut-être un peu spoiler ceux qui l'auront pas fait, mais bon.
Mais c'est pas très grave par rapport
au jeu et ça leur donnera l'occasion de le faire s'ils n'ont pas eu la présence d'esprit de le faire au moment où ça se présentait. Mais tu montes à un moment donné dans ton appartement avec ta nana qui va mater la télé dans le salon, tu peux la rejoindre, tu t'assois à côté d'elle et tu mates la télévision. Exactement comme dans GTA, il y a un programme qui passe sur l'écran.
J'adore.
Et tu restes, et au bout d'un moment, au bout d'un assez long moment, ça dure d'assez longues minutes, la plupart des joueurs auront fait bon, ok, voilà, c'est super, je l'ai vu, je passe à la suite. En fait, ta nana se couche sur toi et tu commences petit à petit à partager un espèce de moment un peu bizarre où tu as. Encore une fois, il n'y a pas d'échange vraiment verbal entre les deux personnages, mais il se passe quelque chose qui a été écrit, qui a été scripté, animé, etc.
Et qui ne sert à rien, et c'est ça
qui ne sert absolument à rien. Voilà. Et ça, moi, ça m'a donné un sentiment de liberté.
Bah, justement, est-ce que dans les jeux vidéo, les choses qui laissent le plus libre, ce n'est pas justement les choses qui ne servent strictement à rien?
Ouais, c'est pareil, c'est ce qu'on disait avec Shadow of the Colossus, c'est moi ce que j'ai ressenti avec Shadow of the Colossus aussi. C'est ça, justement, c'est ce qui est beau, c'est quand ça ne sert à rien, c'est là juste pour l'art, voilà, juste pour le caser là, quoi.
Enfin, ça sert pas vraiment, enfin, ça sert à rien par rapport à ce que le jeu te demande de faire.
Ça te procure du ressenti,
de
l'immersion, etc.
Ça sert à te procurer quelque chose, à te faire ressentir quelque chose.
C'est une récompense même, c'est parce que dans le jeu vidéo, c'est la notion de récompense est quand même fondamentale. C'est que tu progresses dans n'importe quel jeu, que ce soit un jeu de caisse ou un RPG super énorme, tu progresses pour obtenir un certain nombre de récompenses, que ce soit un meilleur temps ou que ce soit un personnage plus fort. Et être témoin d'une scène où t'as l'impression d'être un privilégié parce que t'as fait quelque chose que la plupart des joueurs ne feront pas, et être témoin de quelque chose, c'est une récompense que les game designers te donnent pour avoir fait ça, quoi.
Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, Angèle sur MSN me dit « Dis donc, t'as fait la course de canard dans Shenmue 2 ?» C'est un truc qui ne sert absolument à rien et qui est un peu caché, si tu veux. Faut faire un peu toute une série de trucs à la suite comme ça pour avoir ton
course
canard,
de canard.
Et c'est une course de canard.
Le canard au thon.
Hong Kong, tu vois, donc ils font des courses de tout, j'imagine. Et donc, il a vu la course de canard et s'est dit « Putain, j'aurais peut-être bien dû jouer quand même à Shenmue 2. »
Oh bah merde.
Moi, c'est Angèle. Hein, mais...
Et Louis, tu voulais réagir?
Ouais, moi, je voulais juste te dire que le truc qui va apporter le plus de sentiment de liberté, c'est pas l'univers, les jalons qu'on a posés, les règles physiques. On a une galette devant les yeux, on a quelque chose de terre-à-terre, de basique, de fini, on va dire. Mais c'est le sentiment de libre-arbitre, c'est-à-dire de pouvoir, à un moment, sortir un petit peu des ornières.
Avoir la sensation de prendre une décision indépendante du jeu.
Qui est de se dire, tiens, je vais plonger à l'eau, je vais essayer de traverser sur l'autre berge, je vais voir ce qui se passe. Il n'y a pas de mur invisible, il faut le faire. Toi, tu as attendu devant la télé, Est-ce que c'était sciemment en disant est-ce qu'ils ont pensé à faire un truc ou est-ce que c'était juste un trip contemplatif avec derrière une récompense ?
C'était un trip contemplatif au départ. C'était pas du tout pour voir s'il allait se passer quelque chose. Je regardais juste la télé.
C'est et tout. T'as eu ton libre arbitre de rester scotché dans la télé et de le faire. Et cette notion de libre arbitre est plus importante, je pense, que la liberté d'action et de mouvement.
Même Angel, si je trouve ça quand même très très triste. C'est-à-dire d'allumer la console pour finalement regarder
la télé à l'intérieur.
avec ton perso. C'est-à-dire, tu vois, tu regardes, tu regardes sur à la télé un perso qui regarde la télé. Il y a une mise en abîme un peu sardine quand même.
Enfin, parfois, les programmes télé des jeux sont meilleurs que la vraie télé. Donc bon. Les télévisions de GTA sont géniales.
Ouais.
Génialissimes.
Ouais, bien sûr. Ah bah, c'est sûr, c'est pas NRJ12.
Écoute, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Absolument pas.
C'est notre Buffy à nous.
C'est le Stalker.
Quelqu'un veut relancer ou je peux foutre la merde maintenant.
Une petite chose, la notion de liberté de mouvement qui effectivement est toujours définie par un cadre et la liberté d'action. Prenons un jeu de foot, prenons un Mario Kart, prenons à peu près n'importe quel jeu, on a une liberté d'action qui est de dire je freine, j'accélère, je tire pas, je vais aller plus vite que... Toutes ces libertés-là, on les a, mais dans un jalon, dans un espace, donc une liberté de mouvement qui, elle, est jalonnée et dans laquelle, de laquelle on peut pas sortir. Donc cette liberté d'action, elle est très importante dans plein de jeux. Et elle s'exprime effectivement par des règles, mais on peut faire à peu près tout ce qu'on veut pour gagner une course, que ça soit pourrir l'autre, que ça soit lui envoyer une tortue dans Mario Kart, une carapace, on a vraiment toutes ces libertés, et ces libertés-là, elles sont pas totales, parce qu'elles sont dans un cadre, mais elles existent.
Moi justement dans les jeux de caisse par exemple dont j'ai à peu près rien à foutre, il y a un truc qui me fait marrer quand j'en ai commencé à en avoir vraiment marre, c'est que la dernière course je la fais toujours en contresens et ça m'amuse.
Oui,
bah je suis libre de le faire, voilà, et ça me fait plaisir, pour ça que j'aime bien les jeux vidéo. C'est triste.
Et que t'as pas ton permis.
Exactement aussi.
Non mais je voulais juste revenir sur l'exploitation des bugs etc, mais en disant que c'est des trucs qui sont, celui de Shadow of Colossus c'est assez rigolo, mais t'as des trucs où des fois les mecs ont... dans les MMO, je reviens toujours là-dessus parce que c'est des univers que les mecs ont déjà du mal à gérer de A à Z, donc quand les joueurs essayent de tout péter parce qu'ils ont vu qu'il y a peut-être une possibilité, c'est encore plus pénible. Et dans World of Warcraft il y avait un truc qui était très rigolo une époque, c'était ça consistait en fait, t'as des personnages qui peuvent faire des sorts, des firmes de peur, voilà. File la trouille
JCVD,
à tout le monde.
JCVD.
Voilà. Il fout la trouille à tout le monde. Donc, les personnages courent dans tous les sens sans contrôle, en fait. Et t'avais un bug qui était très rigolo, que tu le faisais dans certains endroits, en fait, ça forçait finalement le personnage à passer à travers certains murs, et dans des endroits bien spécifiques tu te retrouvais dans des niveaux en construction en fait, dont mais carrément des trucs, des cités de créatures qui ne sont jamais sorties dans le jeu encore aujourd'hui, etc. Évidemment ils ont patché les bugs, ils ont fermé les murs où les mecs arrivaient à passer, etc. Mais même il y a des mecs qui passent leur temps au-delà du jeu, des trucs qui sont prévus, des instances à faire, etc., passent leur temps à aller chercher des endroits dans le monde du jeu virtuel pour aller aller trouver les trucs cachés.
Il y a eu l'affaire du virus, moi qui m'avait fait rire, et justement il y a Overgame qui a écrit.
Ouais, mais c'était un truc différent.
On explique un petit peu pour ceux qui sont pas au courant.
En fait, t'avais un bug entre guillemets, ce qui fait que quand t'avais un virus, donc c'était un debuff dans le jeu, c'était un sort, un maléfice qui était sur les pets, les familiers.
Les animaux domestiques.
Je joue tout le temps en anglais.
Les animaux domestiques.
250 jours de jeu en anglais, ça laisse des traces. Et t'as ce familier, tu l'avais avec toi, il chope la putain de malaria là. Et tu le
grab.
Désinvoquais pour pouvoir le réinvoquer en fait quand tu étais après en dehors de cette zone, donc généralement pour bien te marrer.
Vous avez réussi à me perdre.
Tu le faisais à la quête dans le capital. En gros, t'as un animal de compagnie, donc t'avais une classe qui récupérait ça. Tu veux
l'expliquer? Je peux le résumer. En fait, ce sort devait rester dans une certaine zone et pas en sortir, et devait pas donc toucher des personnes qui n'étaient pas du tout allées dans cette zone. Et il s'est trouvé que par un espèce de bug, ça a touché des personnes qui étaient d'un niveau inférieur, qui auraient dû jamais se retrouver là-dedans, qui ne sont pas immunisées, qui l'ont transmis à d'autres personnes, et comme un virus dans la vraie vie, à peu près.
En fait, oui.
Enfin, en français, en tout cas.
Il y a eu deux autres trucs comme ça. Toujours sur le même principe, il y a eu aussi le coup du terrorisme à l'Auction House, l'hôtel des ventes. Donc, il y a toujours sur le même principe, avec le familier, un joueur qui a capturé un sort d'un boss qui se trouve dans un donjon instancé, c'est-à-dire
un dungeon.
Un dungeon, pardon. instancé dans qui est le seul environnement du jeu où tu peux avoir cette bombe là, il a capturé la bombe, il est sorti du donjon, il a été dans l'hôtel des ventes là où il y a plein de gens qui sont toujours là en train de consulter des listings d'objets à acheter, il a sorti son pet, la bombe a pété, il a tué tout le monde dans l'hôtel des ventes, tu vois. Ça c'était un truc qui était absolument pas prévu.
Vous verriez les yeux de tout le monde est mort machin.
Il trouve ça génial.
Je pense que je vais vite rentrer.
Non mais c'est extraordinaire parce que en plus bon, la vidéo une fois encore existe, il faut la chercher sur YouTube, c'est fantastique, c'est un
Auction
truc qui était pas
House,
du tout prévu.
Bombe.
Voilà.
World of Warcraft.
Voilà. Et c'est du c'est authentiquement du terrorisme dans ce MMO, c'était un truc énorme, comme cette maladie dont il a fallu, parce que pour la petite histoire, donc la fameuse maladie qui a commencé à se répandre partout à l'extérieur du donjon, il a fallu couper les serveurs et les remettre à zéro parce que c'était pas possible de s'en débarrasser autrement.
Ce qui était intéressant justement dans le papier d'Overgame, c'est de voir qu'il y a carrément des personnes qui s'occupent de la santé internationale machin, qui ont été intéressées par ce phénomène là parce que ça reproduisait, bon il s'est avéré que c'était pas si vrai que ça, mais au début ils avaient l'impression que ça reproduisait assez bien une simulation d'épidémie et de voir comment ça se transmettait aux gens. Et c'était assez amusant de voir à quel point le virtuel pouvait donner quelques clés de réflexion, en tout cas au réel, et de voir que par des bugs, il y avait des choses de liberté absolue qui se créaient hors contrôle des créateurs.
Arrête de dire ça, Famille de France va penser que ce sont les jeux vidéo qui ont créé le HIV.
C'est vrai. Je me tais tout de suite.
Est-ce qu'on pourrait faire une dernière petite chose peut-être sur la notion de mort qui est dans le jeu vidéo quelque chose de banal. On crève et on voit si ça passe, et si ça passe pas, on s'en fout et on y retourne.
Essaye encore.
Cette liberté qu'on a dans la vraie vie qui est de faire des choses. Mais en essayant de préserver notre santé, dans le jeu vidéo, on s'en tamponne complètement puisqu'on a des vies à plus savoir comment foutre. Donc cette liberté aussi, elle est limitée au fait qu'on n'est pas non plus impliqué, notre vie n'est pas impliquée dans ce qu'on fait.
Mais c'est intéressant,
et
ça.
On peut faire des actions et essayer de faire des choses qui sont complètement improbables, qui peuvent fonctionner, qui est de se dire, tiens, si je me jette de ce toit-là, est-ce que j'aurai assez de vie en bas pour continuer à marcher, parce qu'il faut que je descende de l'immeuble et c'est blindé de flics, si j'arrive à passer par l'extérieur, je vais le faire.
Tu contournes les règles encore une fois.
Ouais. Tu les contournes d'une manière qui n'est pas grave pour ta santé, parce que tu vas ressortir de l'hôpital et refaire
drôle.
La mission.
C'est plutôt drôle.
T'as la liberté de te prendre pour un Yamakasi.
Non mais je pense notamment à GTA, il y a plein de vidéos de mecs qui se jettent de
l'Empire Building.
Ça c'est drôle, ça.
Mais alors,
c'est très très drôle.
Non mais voilà, c'est marrant de voir le nombre de personnes qui le font.
Mais oui, c'est ça. Mais tout le monde le fait. N'importe quel joueur, il voit. Alors, il cherche la tour la plus haute, évidemment. Il y va avec son hélico. Déjà, il dit est-ce que je peux me foutre dessus ? Il se jette de l'hélico. Il doit essayer 10 fois de suite avant de tomber sur le haut de la tour, tu vois. Et puis après, il est là et puis il kiffe. Il dit allez, c'est toi. Il se jette. Il fait du base jump, quoi, sans parachute.
Mais est-ce que ça c'est vraiment de la liberté ?
Bah, t'as la liberté de te
quelque
tuer,
part
ouais.
C'est parce que t'as la liberté de pouvoir de jouer dans ton bac à sable qui est GTA, que t'as envie de tester ce genre de truc et que tu te sens que tu te sens mieux après l'avoir fait, quoi. J'ai envie de dire, tu vois, t'as envie de tout tester,
tu t'es tapé un trip, quoi.
Tout à l'heure avant le début du podcast on parlait d'un jour sans fin, c'est exactement ça, quoi. Imagine que demain, tous les jours, tu reviennes à la base comme dans un jeu vidéo, tu fais plein de conneries et tu vois ce qui se passe, quoi. Tu prends ta voiture,
son nom d'Angèle sur le
vélo. Angèle, qu'est-ce que tu fais ?
Piètre humain.
Moi, je ferai comme Raon, je regarderai à la télé.
Bonne réponse.
Mais pour revenir à la mort aussi, par exemple, ça me fait penser aussi à d'autres choses. C'est que la réaction du jeu est justifiée, ça participe au sentiment de liberté aussi, de bien comprendre les règles. Parce que dans un jeu vidéo, quand tu crèves, tu reprends une sauvegarde ou tu recommences à un moment antérieur, etc. Mais je pense par exemple à Planescape Torment, qui était un RPG de Black Isle, si je dis pas d'idiot aussi, ou BioWare déjà à l'époque, je sais plus, enfin bref, dans lequel le personnage pouvait mourir donc, mais il revenait et c'était justifié dans le jeu. Ça faisait partie des règles du jeu, puisqu'il était ressuscité par les dieux à l'intérieur, donc c'était justifié, c'était pas ça faisait partie de l'histoire, etc. Il y avait des choses qui s'articulaient par rapport à cette situation là et la mort était justifiée dans l'univers du jeu.
Alors à chaque fois que tu mourais,
ouais.
Et il y avait la même explication à chaque fois, ou
oui,
à
oui,
chaque
oui.
fois il trouvait un truc non, différent non, parce non, que c'est dans ce cas là tu passes tout le temps à crever. Je disais putain, et alors est-ce que vous allez vous répéter?
Mais bon, enfin c'est important de constater qu'en fait plus il y a de règles, plus tout est justifié, et plus tu peux te sentir libre dans ce contexte-là, en fait.
Julo, tu voulais intervenir?
Ouais, parce que alors là,
citer quelqu'un, je crois.
Je saute un peu du coq à l'âne, mais tout à l'heure on parlait des mises en abîme, etc. C'est intéressant aussi à ce niveau-là, et notamment celle qu'adore faire Kojima. Quelque part, Kojima dans les MGS, il aime bien aussi jouer de ce rapport du joueur avec la liberté, le faire se remettre en question sur différents trucs. Je pense notamment à la fin de MGS2 où il t'ordonne, avec un ton de plus en plus autoritaire, d'éteindre la console, tu vois. Et moi, comme un con, je l'ai éteint, quoi.
Ouais, mais pareil.
Ouais, c'est ce
t'as les libertés de le faire ou pas.
Et au lieu de dire. Quelque part, il veut te montrer à quel point t'es dépendant de certains. À quel point t'es con, ouais.
Et puis vous l'avez déjà dit, mais il y a une autre liberté dans ce genre de jeu. C'est effectivement, il y a des jeux où on peut tuer tout le monde, mais par exemple, dans les Metal Gear, on n'est pas obligé. On peut avoir plusieurs manières d'interpréter.
Fallout. Ouais. Tu peux terminer le jeu sans avoir tué qui que ce soit ou en ayant tué tout le monde. C'est ça le summum, en fait.
MGS,
de ces libertés-là.
Ouais. Tu peux faire Tenchu aussi. Enfin.
Ah bah je trouve non. Que c'est des jeux vachement. Si.
Bah, dans Tenchu.
Si, Tenchu, faut que tu tues.
Tu rigoles. Tu veux qu'on appelle Chris, il va t'expliquer comment on fait.
Ah, bah t'es obligé de tuer le boss au moins.
Met Ninja.
Tu peux arriver. Non. Tu au tranquilliseur et tu l'endors.
Tous.
Moi je l'ai fait.
C'est vrai. Ouais. Moi quand je me suis retrouvé contre The Sorrow, je te raconte pas tous les zombies qu'il y avait dans le fantôme qu'il y avait.
Moi la première partie oui, mais la deuxième il n'y en avait aucun
le couloir de la mort là, il a duré pendant
le petit vieux qui se régénère en plus au tranquilliseur, c'est une tannée. Mais virtuellement tous les boss, même ceux en fer, en acier ou quoi que ce soit, avec ta petite fléchette de tranquilliseur, tu peux les avoir, c'est beaucoup plus long. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les boss ont une deuxième jauge en bas de sommeil, etc. Donc virtuellement tu peux finir le jeu boss compris sans avoir tué personne. Alors Tenchu, tu leur tranches la gorge.
Oui, mais enfin bon, t'évites tous les autres.
Dernière petite chose sur la liberté, comparons la vraie vie à un GTA, puisque c'est peut-être ce qu'il y a de plus ressemblant, on va dire, graphiquement et visuellement. On a des libertés dans la vraie vie, mais qui sont jalonnées par des lois, par des règles, par des choses pour lesquelles on est inhibé, on le fera pas, quoi. Ce soir, on va partir, on va pas voler une caisse, on va pas braquer une banque, et on va pas buter tout le monde, parce que c'est pas le but. On peut le faire dans GTA, et quelque part, on est plus libre de faire beaucoup de choses qu'on imagine même pouvoir les faire dans la vraie vie. C'est quasiment impossible, ou alors on finit en taule et la fin, la vie s'arrête.
C'est aussi
là.
Pour ça que c'est la grosse différence avec la vraie vie, c'est que là c'est du jeu.
Et dans la vraie vie, t'as les lois sociales aussi. Par exemple, tu vas pas prendre un mec dans la rue, l'insulter, etc. Et c'est marrant, enfin ça dépend, ouais. Mais cela dit, c'est réagi quand même par ces lois-là. Et tu vois, quand tu joues, le début du Xbox Live, moi par exemple, je me rappelle, c'était une tannée parce que tous les mecs s'insultaient en fait, et que quand t'allais jouer ils se sentaient une liberté supplémentaire du fait d'être dans un jeu. Ouais, j'ai l'impression que ça a changé, mine de rien.
Pas tellement,
il y avait que des traces hommes, moi je dirais, partout.
Non, mais c'était internet. Enfin, le truc c'est qu'on parle depuis tout à l'heure sur des jeux qui sont en fait mission based, donc t'as quand même un truc à faire. Alors après, on prend des libertés, on les fait dans l'ordre ou pas, etc., mais on reste quand même dans des univers qui sont vachement dirigistes. Finalement dans GTA, tu raccroches au nez de la mission parce que tu mets ton téléphone en veille, mais tu vas faire des conneries à côté, mais t'es quand même dans un truc où si tu veux voir la fin du jeu, il faut continuer. Et pour le moment, il y a très peu de jeux bac à sable où tu fais vraiment ce que tu veux, dans les cadres toujours évidemment des possibilités offertes par le jeu. Mais t'as EVE Online qui est le seul produit actuellement, si on remonte, il y avait Elite il y a des années de ça, mais les jeux spatiaux offrent une liberté que tu peux pas vraiment modéliser avec des trucs super précis, des trucs super détaillé comme un GTA, parce qu'effectivement là ça tu t'en sors pas, alors que les jeux spatiaux tu peux quand même faire des trucs un peu plus libres. Et dans EVE Online tu peux décider d'être un pirate, tu peux décider de faire des missions, ça existe, il y en a quelques-unes, mais tu peux aussi décider de faire une corporation avec tes potes pour aller conquérir la galaxie, et c'est quand même le seul jeu où tu peux vraiment conquérir la galaxie. Si t'as envie d'être le patron, tu peux. Il y a des mecs qui ont
et
fait,
tu peux te casser dans un coin de la galaxie complètement à l'ouest de tout le monde,
ouais,
si
pour
tu
aller
veux.
Méditer.
Tu peux aller, tu peux prendre d'autres joueurs en otage, tu peux.
Ça, c'est génial. Le coup des otages, j'adore.
Tu peux.
Expliquer un petit peu, parce que dit comme ça, ça a l'air un petit peu chelou quand même.
Bah, en fait, si tu veux, il y a des mecs qui essayent de gagner leur vie honnêtement dans le jeu en étant mineurs par exemple. Donc, ils vont sur des ceintures d'astéroïdes pour faire pour miner comme des pauvres ouvriers du virtuel. Et puis, t'as des mecs qui arrivent et qui ont décidé, mais alors attends, c'est un jeu vidéo, je vais quand même pas aller me faire chier me lever le matin pour aller miner. Donc eux, ils arrivent, ils font des armées,
ils vont voir les mineurs,
ils vont voir les mineurs qui se font chier. Et puis d'ailleurs, il y a même des mecs qui sont des mineurs chinois qui sont là pour vendre après l'argent, etc.
Ouais.
Donc ça, c'est leur cible préférée. Et là, les mecs, ils arrivent avec plein de vaisseaux, ils font écoute, c'est pas compliqué, tu nous files tant de thunes ou on pète ton vaisseau.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans EVE Online, tous les joueurs peuvent agresser n'importe quel autre joueur. Je veux dire, c'est du vrai PVP, donc player versus player. Alors que la différence, par exemple, dans un World of Warcraft, c'est que les gens de ta propre faction, tu peux pas les tuer, par exemple. Tu peux pas prendre un joueur en otage en disant je vais te tuer si tu me files pas tant de thunes, par exemple. Dans EVE Online, tu peux.
Sachant qu'il y a des zones au départ où il y a une police virtuelle, qui est contrôlée par le serveur, où normalement tu es relativement, on va dire, protégé. mais t'es pas protégé tant que ça. Et des fois, t'as des guerres entre corporations qui sont autorisées, déclarées officiellement, et les mecs vont se buter jusque dans les camps de newbies, et la police va pas réagir tant que ces deux factions sont en train de se foutre sur la gueule, parce que voilà, non, mais ça c'est fait, c'est officiel, eux ils peuvent se tirer dessus jusqu'à ce que la mort s'en suive et que les mecs aient un vainqueur. Et c'est vraiment une liberté que tu ne retrouves dans aucun autre jeu et où tu es allé pousser d'adrénaline parce que. On revient sur ce que disait tout à l'heure Elwood, c'est la mort a une signification. La mort, c'est de l'argent. Ça coûte énormément de pognon de perdre un vaisseau dans le jeu. Ton personnage, quand il s'éjecte du vaisseau, il est dans une petite capsule de sauvetage. Mmh. Si le mec, c'est vraiment un enfoiré, il peut buter la capsule de sauvetage, sachant que ton personnage peut avoir des implants, etc., qui coûtent encore plus cher que ton vaisseau. Donc, il y a vraiment un risque quand tu te balades avec ton vaisseau dans l'espace et que tu vas en reconnaissance dans un coin en disant « Eh, peut-être il y a de la thune à faire là-bas, etc. »
Tu flippes
parce que tu dis putain.
Putain, tous les coups, si tous les mecs coups arrivent, entre guildes, les coups de pute entre guildes d'un mec qui s'infiltre pendant 6 mois dans une guilde pour monter pour avoir les passes de telle base spatiale qui est reculée, machin. Le type, il reste pendant 6 mois dans la guilde, il passe les échelons petit à petit, il arrive au moment où il a le fameux code du machin, et là, il organise son truc avec sa vraie guilde. T'as tous les mecs qui arrivent dans la nuit, qui dépouillent la base, et les mecs ont perdu 6 mois de 6 mois de jeu.
T'as des mecs qui ont raté le jeu.
Le gars
s'est fait passer là où il a été très loin dans le roleplay, c'est que le mec en fait se faisait passer pour un pote des mecs non seulement dans le jeu, mais après il s'est changé leur MSN, etc. Il faisait une double personnalité, il a créé un personnage en fait. Donc les mecs sur MSN, genre c'était leur pote et tout.
Mais ça c'est le summum de liberté dans un univers de jeu.
Aucun autre jeu peut te permettre.
Parce qu'en plus les gardiens des règles, donc les game masters.
J'essaie de vous faire croire que je suis votre pote et qu'on bosse ensemble.
Mais non, on le sait, tu bosses à la télé.
Tu pirates tout.
Tu bosses à la télé, on a zéro.
Tu lances Game Blog India avec la même charte graphique, la même.
Mais
je vais toucher 1 milliard de joueurs.
Ça va être chiant.
En Inde.
India.
Ça va être dur.
Et je lance aussi le site au JO en Chine. Je vais kiffer.
D'accord. Je crois qu'on l'a perdu là.
Oui, au-delà de 50 minutes de podcast, moi je
il a pris des médicaments.
J'ai envie de décrocher.
Ah là là. On se fait un petit tour de table à repasser pour savoir pour chacun un petit peu quel serait son jeu qui, à ses yeux, offrirait le plus de liberté, ou en tout cas la première fois où il a eu la vraie, où il s'est dit face à sa télé avec la manette en main. Oh putain, qu'est-ce que je suis libre, j'avais jamais vécu ça. On va pas commencer par Julo parce qu'à peu près je sais à peu près.
Non, tu
et puis on va être poli surtout.
On va être poli, oui, c'est vrai.
On va demander à Elwood.
Je dirais que le premier, c'est Deus Ex, très clairement. Il y en a eu plein avant dans des graphismes et des époques beaucoup plus anciennes que j'ai pour la plupart, si ce n'est oublié, en tous les cas, complètement. Qui n'ont plus le même impact aujourd'hui quand j'y pense, mais Deus Ex conserve ce côté liberté totale et qui. J'ai vraiment eu pour la première fois dans un jeu vidéo le sentiment de faire quelque chose de mon propre chef et avec le goût de la découverte. Qui était de trouver soit des pièces secrètes, soit de m'injecter des trucs pour avoir des nanotechnologies supplémentaires et me créer un personnage vraiment différent de ce que du commun des mortels et du Mario qui est toujours le même. Et depuis tous les GTA, parce qu'on est tous pareils, et on a tous à un moment ou à un autre eu un trip contemplatif dans un des épisodes à se dire je vais juste me balader, prendre un taxi, faire un jump, sauter d'un immeuble, faire du best jump des immeubles, c'était le top parce qu'il y avait des parachutes donc tu crevais pas. Donc ouais, vraiment ces deux-là.
D'accord. Caf ?
Moi, c'était Elite le premier. Donc, voilà, parce que t'étais voilà, avec ton vaisseau spatial, tu faisais du commerce, c'était bien avant qu'il y ait les réseaux, etc. Et j'ai retrouvé ça avec Eve Online, avec des vrais gens de l'autre côté. Et là, ça a été la claque. Et je pense que c'est pour ça que le jeu continue de marcher malgré le fait qu'il ne soit pas facile à aborder, en fait. Parce que justement, trop de liberté.
Tu peux tuer
les gens. Ouais, bah, ça déstabilise les gens.
C'est à toi que j'aurais dû poser la question tout à l'heure. Pas à Julo. Raon.
Moi, c'est va être Fallout, qui est où j'ai vraiment eu la sensation d'être dans un univers de jeu où je pouvais faire ce que je voulais quand je suis arrivé au premier village et que le premier mec à qui j'ai parlé, j'ai décidé de le flinguer et j'ai flingué finalement tout le village et que, après je suis allé au suivant.
Psychopathe.
Mais bon, voilà. Non, mais ça c'était.
T'as pas fait la même chose dans Fable.
Non.
On va demander maintenant à Angel son jeu avec le plus de liberté.
Moi, c'était Tetris. Quand j'ai fait mon premier Tetris, j'ai eu l'impression d'être le roi du monde, quoi. Une sorte de super maçon.
Voilà. Mais est-ce que tu te sentais libre ? Est-ce qu'on peut se sentir libre dans un jeu où les pièces inexorablement chutent ?
Bien
toujours,
sûr, parce
toujours,
que quand les pièces disparaissent, quand je faisais des lignes et que les lignes disparaissaient, à ce moment-là, j'avais l'impression d'être Dieu.
Très bien.
Vous voyez la gueule
du
coup, de
on va passer
là.
Le micro à Julo. Julo.
Eh bien,
est-ce qu'on va avoir une surprise ?
Ouais, peut-être. Ah. Non, moi, c'est Deus Ex à Donf aussi. C'est la première fois que j'avais ressenti autant de liberté dans les choix que je pouvais faire. Et évidemment, je vais quand même citer Shenmue.
Bah, parce que quoi, je vais le dire, parce que moi, c'est moi mon jeu où j'ai senti le plus de liberté, c'est vraiment Shenmue.
Mmh. Ouais, c'est une, mais oui, c'est une liberté dont tu vois
les barrières, bien les sûr. Barrières mais c'est vite. La première fois où j'ouvrais les tiroirs et franchement, je me faisais chier. Mmh. Hein. Mais j'essayais tout, du coup, tout. Je voulais voir jusqu'où ils avaient poussé le délire de me laisser des clés.
Et après, tu
des ouvertures.
La rue, alors c'était contemplatif aussi, Shenmue.
La première fois, il fallait avoir, en tout cas pour moi, une expérience un peu console essentiellement, où je devais faire des boulots pour obtenir de l'argent.
Et puis t'as la salle de
plein
jeu
d'à côté.
La salle
ouais,
de jeu
la salle
pour
de
aller
jeu.
Faire une petite partie sur une bande d'arcade. Ça, c'était.
C'était la première fois où je faisais plein d'à côté de jeu qui apportait strictement rien, mais qui faisait du vécu et renforçait du coup l'histoire.
En fait. Dans tous les cas, je cite Shenmue, mais en premier vraiment Deus Ex pour le sentiment pur de liberté, quoi.
D'accord. Angel qui veut rebondir.
Je vais dire une dernière chose, mais qui va relancer le débat, parce qu'en fait, on n'a pas du tout parlé de Populous, SimCity, tout ça. Alors que.
C'est vrai.
Voilà, c'était peut-être très
je
fermé,
jamais,
mais.
Joué, hein,
mais c'était.
Est-ce qu'on est vraiment libre
C'est des jeux bac à sable.
Ouais. Bah, à cette pour cette époque-là, ouais. Pour cette époque-là.
Parce que c'est
hein,
pas les Sims. Ouais, ouais, ouais,
mais les Sims, ça, les Sims ouais, les Sims aussi, c'est intéressant. Mais de toute façon, tout le travail de Will Wright, tout ce que Will Wright sort et sa vision du jeu. Est très attaché au concept de liberté, mais peut-être pas dans l'optique qu'on a abordé effectivement pour l'instant. Mais c'était effectivement important de le citer.
Mais c'est effectivement avoir oui.
Parce que là, on a parlé des trucs contemporains, mais à l'époque, on essayait déjà de forcer, de donner cette impression de jeu. Justement, on a parlé d'élite, mais il y avait tout ce qui était SimCity.
Tu prends même la première présentation
City,
de sport, la première fois qu'il nous a montré sport et qu'on a vu l'échelle du bidule. T'as tout de suite une espèce d'aspiration en disant oh, c'est énorme, on va pouvoir faire plein de trucs. Bon, alors que ce sera peut-être pas forcément le cas, on verra, mais en tous les cas, effectivement, bon, bah, voilà Will Wright. C'est
comment
de toute façon Will Wright.
Ah, okay. Non, c'est Will Wright.
C'est pas de,
le
pas de fin,
gêne.
Quoi. Pas de
oui,
fin.
C'est ce que je voulais dire.
C'est vrai qu'il se ressemble. Hein.
Juste pour refinir ce podcast donc sur la liberté dans les jeux vidéo, réalité ou simple illusion, on a essayé d'y répondre un petit peu, vous cernez un petit peu mieux notre avis sur la question. Elwood a parlé tout à l'heure justement du fait que probablement jamais on aurait un jeu dans lequel on serait totalement libre. Est-ce que vous pensez qu'un jour, je ne sais pas dans quel horizon, hein, mais il y a des développements qui vont permettre d'apporter cette liberté totale, Raon ?
Certainement pas avant qu'on soit mort, à mon avis.
Mais c'est ce que j'allais dire. La réponse est oui, mais est-ce qu'on
mais
va le vivre ?
On
ne va
pas de notre vivant.
Enfin, a priori, on va quand même encore vivre quelques années.
En tous les cas, pour l'instant, à mon avis, le jeu vidéo ne peut pas vraiment progresser au niveau de la liberté, non seulement parce qu'on a déjà parlé des frontières technologiques, mm-hmm. mais ce n'est pas les seules. Il y a aussi le fait que le jeu vidéo n'est pas capable de transgresser les libertés des sujets qu'il choisit de traiter et la façon dont il les traite. Et des codes aussi qui s'est construit lui-même, c'est-à-dire les barres de vie, je dis par exemple, ou enfin les
mais qui tendent à disparaître de plus en plus, hein, quand même.
Qui tendent à disparaître, ouais, mais il en est encore extrêmement tributaire des codes des tout premiers jeux, des mécaniques des tout premiers jeux, etc.
Elle est peut-être invisible, mais elle existe quand même.
Oui, oui.
Tu vois, enfin dans le
bah, comme,
fondamentalement.
Comme dans la vraie vie, puisqu'on se rapproche de la réalité.
Mais déjà, on n'est même pas libre de traiter tous les sujets dans le jeu vidéo. Et on n'est pas, enfin, le jeu n'est pas libre par rapport à la littérature ou par rapport au cinéma, tu vois, je veux dire dans ce qu'il aborde, quoi.
Alors, ce que vous venez d'entendre est un éclair qui vient de foudroyer ma rue à peu près 5 mètres. Il y a eu une déflagration gigantesque.
Oh, comme il exagère, sans déconner.
Mais j'ai jamais entendu ça à Paris, moi. Ça, c'est en pleine race campagne, normalement.
Oui, ouais, parce que c'est vrai
mourir.
Qu'il n'y a jamais d'orage au-dessus.
Okay, hein. Super.
Tous mourir.
Non, les orages s'arrêtent.
Mais non, mais pas de cette
périphérique.
Violence, pas de cette violence comme ça dans les rues, quoi.
Bon, j'ai peur. Vas-y, conclue. Parce que là, t'es en train de dire que des conneries.
Écoute, j'ai envie de te dire, tu es libre de conclure.
Je suis libre de conclure, oui. Vous me l'offrez. Et bah écoutez, je vais prendre ça, l'embrasser de plein bras, de pleine main, je sais pas quoi dire. voilà.
Embrasser
donc,
de pleine main.
C'est sur ces bonnes paroles, pleines de sérénité. Je sais absolument pas quoi dire, j'étais perturbé par ce coup de tonnerre. Que ce podcast 59, néanmoins, s'achève. Donc on vous remercie bien évidemment à vous, hein, sur les forums, sur le forum, de pouvoir réagir, de donner votre vision de la liberté dans le jeu vidéo.
Quand est-ce que vous êtes senti libre, dans
exactement.
Quel jeu et pourquoi ?
Voilà, citer ces moments, comme on le disait avec The Darkness, ces petits moments dans certains jeux qui sont peut-être pas forcément un jeu qui offrait le plus de liberté, mais à un moment vous êtes senti libre, vous avez vécu quelque chose de fort avec le jeu vidéo. Eh bien, c'est à vous maintenant de vous exprimer, bien sûr, comme d'hab, hein, on relit tout ça, puis on va pouvoir les relayer. Si je dis pas de bêtises, je crois que la semaine prochaine, c'est un podcast qui est dédié à l'actualité. On va revenir sur bien tout ce qui s'est passé pendant le mois de mai. Comme d'hab, hein, on vous le rappelle, désormais, ça devient une habitude, un rendez-vous.
Tous les premiers mercredis du mois,
le retour sur l'actu du mois passé. Et il y aura évidemment pas mal de choses à dire. Et puis d'ailleurs, hein, bah, vous pouvez commencer déjà dans le forum. S'il y a des points qui vous ont particulièrement attiré l'œil, qui vous ont choqué, intéressé, et bah, soulignez-les
toujours, et puis n'oubliez pas, hein, tous les samedis, le best-of qui vous permet de voter pour l'actualité forte de la semaine. À chaque fois, hein, on se réfère à ça pour faire le podcast spécial actualité. Voilà, je crois que la boucle est bouclée. Nous allons pouvoir chanter et danser la vie autour d'un bon repas et de moult ripailles. Voilà, on vous salue. Rendez-vous tout de suite maintenant sur le reste de l'actualité de Gameblog.fr. Non, parce que j'ai essayé d'arriver à une heure de podcast, mais en fait, non, je crois qu'il faudrait que je parle beaucoup.
Ouais, non, laisse
temps.
Tomber, on est encore pour une minute.
Ou je pourrais vous parler d'autres trucs. Oh, non. Comme Edouard Baird, lui dit qu'il faudra pas chercher son pas. Allez, ciao, ciao.
Salut.
Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Salut.